Et maintenant, on va s'intéresser à comment être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est bien de se dire que l'Esprit peut faire ceci ou peut faire cela, mais se pose alors la question, comment cet Esprit peut-il mener son action en nous? Comment est-ce qu'il peut nous remplir pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu veut faire en nous? Et pour ça, il nous faut faire une distinction entre comment c'était avant et comment c'est maintenant. Parce que ce que nous montre la Bible, c'est qu'il y a eu, dans le plan de Dieu, il y a eu à un moment une charnière. Cet événement s'appelle la Pentecôte. C'est quelque chose qui s'est passé. Donc la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de Jésus. Eh bien, la Bible nous montre que à partir de ce jour-là, le Saint-Esprit a été accordé définitivement à un certain nombre de personnes. Voilà, parce que donc avant la Pentecôte, ce n'était pas le cas. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était accordé, mais plutôt de manière ponctuelle et provisoire. Et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu accordait son Esprit à certaines personnes pour des tâches bien précises. Sur votre feuille, je cite un texte de l'Exode, où Dieu dit, je l'ai rempli, donc parle d'un homme en particulier, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Là, il s'agit plutôt de dons de l'Esprit. David, le roi David, qui était vraiment une bonne partie des textes bibliques, des psaumes entre autres, ont été écrits par David. C'était un homme vraiment qui aimait Dieu, et pourtant, voilà ce qu'il dit dans le psaume 51:13, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Parce que David savait que Dieu pouvait faire ceci. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec le roi qui a précédé David. Le roi s'est détourné de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu lui a retiré son Esprit Saint. Mais ce n'est pas le cas pour nous, aujourd'hui, je dirais, parce que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné de manière définitive à ceux qui ont foi en Jésus. C'est le jour de la Pentecôte marque la réalisation de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Tout à l'heure, enfin ce matin, je vous ai lu un texte de Joël, qui était la promesse qu'un jour Dieu enverrait son Esprit. Eh bien, lors de la Pentecôte, voilà ce qu'il est dit, « Maintenant, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et après, c'est une citation de la prophétie de Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et elles prophétiseront. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Dieu envoie l'Esprit Saint à toute personne qui fera appel à Jésus. C'est en croyant en Jésus que l'on reçoit le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle des fois la conversion. Alors moi qui habitais avant en montagne, quand on fait du ski de fond, c'est super le ski de fond, mais pour tourner c'est assez problématique. Et des fois lorsqu'on ne descend jamais tout droit, parce qu'on n'arrive pas à tourner, on fait plutôt des lignes droites dans les pentes légères, mais quand on veut partir dans l'autre direction, on doit faire une conversion. C'est-à-dire que c'était assez périlleux, vous êtes là avec vos bâtons, et puis il fallait mettre le pied dans l'autre sens, réussir à ramener l'autre ski sans se casser la figure. C'est ça une conversion, c'est on change de direction. Eh bien, lorsque l'on fait appel à Jésus dans notre vie, ça correspond vraiment à ça, à cette conversion, c'est que nous changeons la direction de notre vie. Parce qu'avant, voilà, peut-être qu'on croyait que Dieu existait, mais on ne se préoccupait pas forcément. Et bien là, on change la direction de notre vie afin de nous tourner vers Dieu. Au lieu de repousser Dieu en totalité ou en partie de notre vie, on se met à le recevoir. C'est l'effet inverse. Voilà. Ce n'est pas « je ne veux pas », mais au contraire, on le reçoit. Nous reconnaissons à ce moment-là que nous sommes séparés de Dieu en raison de notre péché, cette prise de conscience, ce travail du Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur à quel point, par rapport à Dieu, ben, on a raté le coche. Eh bien, lorsqu'on réalise ça, on demande pardon à Dieu pour ça. On est conscient qu'on n'a pas fait ce que Dieu attendait de nous, qu'on l'a attristé, qu'on a fait des choses du mal. Voilà, on demande pardon à Dieu pour ça. À ce moment-là, on accepte Jésus, que Jésus ait donné sa vie en échange de la nôtre. C'est cette prise de conscience de notre péché. Nous, on était disqualifiés, mais Jésus est mort pour nous. Et parce qu'il a donné sa vie pour nous, en échange, on offre notre vie à Dieu. C'est ça, ce changement de direction. C'est Jésus qui devient, par la foi, à la fois le Seigneur de notre vie, celui qu'on veut suivre, mais aussi notre Sauveur, celui grâce auquel on peut s'approcher de Dieu. Changement de direction, on ne s'approche plus de Dieu juste par nos propres forces, mais on passe par Jésus-Christ. Et c'est en croyant en Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13 et 14, qu'on a déjà lu. C'est en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Le Saint-Esprit vient en nous de manière définitive, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette question de sceau. C'est Dieu lui-même s'engage là-dedans, et cet Esprit qu'on a reçu nous relie à Dieu de manière définitive. C'est le début de la vie éternelle. C'est comme l'acompte de notre héritage. Lorsque, au moment de cette conversion, Dieu vient vivre en nous, mais on parlait tout à l'heure de la transformation du Saint-Esprit, et ce n'est pas quelque chose qui s'opère totalement en nous, c'est quelque chose de provisoire. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'un jour, on sera totalement transformé. Il n'y aura plus de péché en nous, on sera vraiment capable. Ce cœur de chair dont on parlait, on sera réellement capable d'aimer Dieu notre prochain. Mais ça, c'est ce qui arrivera au bout du compte. Ça, c'est la vie éternelle. Mais en attendant, on a déjà un acompte. Et bien, ce Saint-Esprit en nous, c'est l'acompte de notre héritage. La première chose qu'on a reçue, et un acompte, on ne revient pas dessus. C'est le début de cette nouvelle vie. Donc, notre vie commence à changer, des fois progressivement. On a un avant-goût, quelque part, on commence à avoir un avant-goût de ce qu'on va connaître pour l'éternité. La réception du Saint-Esprit, c'est comme une nouvelle naissance. Tite 3.5. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Ce n'est pas parce qu'on a fait des choses qui nous qualifient comme justes. Ce n'est pas à cause de ça qu'il nous a sauvés. Mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. On est renouvelé intérieurement par le Saint-Esprit. C'est comme une nouvelle naissance, une nouvelle vie s'offre à nous. Et ça, ce n'est pas réservé pour quelques personnes en particulier, c'est pour toute personne qui croit en Jésus. Romains 8, 9 nous dit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas reçu cet Esprit-là, c'est qu'il n'appartient pas à Dieu, c'est que Jésus n'est pas son Seigneur et son Sauveur. Mais par contre, c'est-à-dire que toute personne qui a fait ce pas de foi a reçu l'Esprit. Et lors de notre conversion, des fois on pourrait se dire, mais bon, peut-être que Dieu nous a donné un échantillon, et puis il ne nous en a pas donné assez. Mais pourtant, la Bible nous dit que lors de notre conversion, on reçoit pleinement l'Esprit de Dieu. Il ne nous manque absolument rien. Éphésiens 1, 13, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, c'est ça, de toute bénédiction de l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et en Corinthiens 3, 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est pas pour autant qu'on devient des machines. Dieu n'a pas fait le choix de nous transformer en individus qui n'auraient plus leur libre arbitre, puisque c'est le mot qu'on utilisait. Non, on conserve cette liberté. Ça veut dire que par rapport à cet esprit que nous recevons, eh bien, soit on va lui permettre de se manifester, on va coopérer avec lui, soit au contraire, on ne va pas lui permettre. C'est-à-dire que ce que la Bible nous dit, c'est que au moment de notre conversion, on est déjà rempli de l'Esprit. On n'a pas besoin d'attendre davantage. Cette plénitude de l'Esprit, elle est déjà là. Et d'ailleurs, ne serait-ce que si on réalise ce que la Bible nous dit de l'Esprit, hein, l'Esprit c'est Dieu. Ben, quand Dieu est quelque part, il n'est pas là un petit peu. C'est soit il est là, soit il n'est pas là. Mais il n'y a pas un bout d'Esprit un dilué. Non, soit cet Esprit est là, et on disait que l'Esprit c'est cette puissance de Dieu, soit il n'est pas là. Mais simplement, qu'on a la manière dont on va recevoir cet Esprit, la manière dont on va vivre, va permettre à cet Esprit d'occuper toutes les sphères de notre être, de notre vie, ou au contraire, on va s'opposer à son action. Parce que ce que nous devons, c'est pour connaître cette plénitude du Saint-Esprit, nous devons coopérer avec lui. Coopérer. Parce qu'il est possible de refuser de coopérer avec le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Et le contexte de ce passage dit que c'est dans un cadre où, par l'Esprit de Dieu, Dieu nous a éclairés, a éclairé certaines personnes, mais les gens ne veulent rien entendre. Quelque part, Dieu leur a parlé par l'Esprit Saint, mais ils refusent d'entendre. Et des fois, c'est ce qu'on fait, hein, vous savez, des fois, il y a des choses, on sait très bien que ce qu'on nous dit, c'est vrai, mais c'est comme si on se bouchait les oreilles. On a entendu les mots, mais on refuse d'aller dans ce sens-là. Ben, si on fait ça, c'est comme si on éteignait l'Esprit. C'est que l'Esprit qui opère une œuvre en nous, on lui dit, mais non, ça je n'en tiens pas compte. Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Le contexte de ce passage-là, c'est le péché. Et pas un péché dont on est ignorant, parce que des fois, il y a des choses qu'on fait, on n'est pas conscient. Là, il s'agit de, par son esprit, Dieu nous a fait prendre conscience d'un péché, et on fait le choix malgré tout de continuer. Eh bien, c'est comme si on attristait cet esprit qui devrait nous apporter en nous cette vie, eh bien, on l'attriste. Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire rempli de l'Esprit. » Des fois, au lieu de permettre à l'Esprit de Dieu d'occuper toute la place dans notre vie, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos actions, eh bien, on peut choisir de remplir notre vie par plein d'autres choses qui vont prendre la place. Des fois, vous savez, on finit par ressembler aux choses dont on se remplit en permanence. Eh bien, là, c'est une exhortation de dire, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Pas en attendant autre chose, mais cet esprit qui est là en vous, mais appuyez-vous dessus, allez dans le sens où l'esprit vous pousse. Ce que Dieu attend de nous, c'est il nous demande de choisir de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, oui, cet Esprit qui nous donne la vie, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Pas simplement dire... Moi, je prends l'Esprit de Dieu pour la vie éternelle, et puis derrière, j'en fais rien. Non, on doit se laisser conduire par lui. Et ça, c'est vraiment l'élément, je pense, qui marque un tournant dans notre vie. Est-ce que vous avez l'impression que l'Esprit de Dieu vous pousse dans une certaine direction? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez l'impression que l'Esprit de Dieu vous pousse dans une certaine direction? Est-ce qu'il vous semble que Dieu vous appelle, par exemple, à venir à lui, ou à faire quelque chose qui est en accord avec sa parole? Eh bien, si jamais on a ça, c'est ce que produit le Saint-Esprit en vous. C'est comme si, voilà, c'est Dieu qui vous attire à lui, c'est Dieu qui vous appelle. Et lorsque ça se produit, ça signifie que c'est quelque chose qui est extrêmement réjouissant, parce que c'est Dieu est prêt. Quand Dieu produit ça, c'est que Dieu, lui, est prêt à nous recevoir. Ça signifie que Dieu, voilà, Dieu est prêt à vous recevoir, mais aussi que Dieu vous attend. Mais quelle réponse on donne à ça ? Galates 5, 16, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Dieu nous met face à un choix. Notre vie entière est remplie de choix. Soit de suivre notre nature propre, c'est-à-dire notre vie où Dieu n'a pas sa place. Soit de faire le choix de marcher avec Dieu. Parce que marcher, c'est une question de volonté. C'est on choisit le chemin qu'on va emprunter et on choisit de se déplacer ou de ne pas se déplacer. Est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous met face à un choix pour l'orientation de votre vie? Est-ce que vous pensez que Dieu vous appelle ou vous demande de le suivre? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit en vous. Dieu vous demande alors de faire le choix de le suivre. Mais comme tout choix, ce choix nous appartient. Éphésiens 4, 23. Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence. On a tous des idées préconçues sur Dieu. Des choses fausses auxquelles nous croyons. Voilà, des choses qui sont là, ancrées dans ce qu'on considère notre intelligence. On est convaincu d'un certain nombre de choses. Et parfois, eh bien, le Saint-Esprit vient bousculer tout ça. Parce que probablement qu'il veut nous amener à ouvrir les yeux sur autre chose, sur une autre réalité. Est-ce que vos idées sur Dieu ont été bousculées ces derniers temps? Est-ce que votre regard sur Dieu et sur la foi a changé? Eh bien ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans vous. Dieu vous montre qui il est et ce qu'il espère, c'est que vous allez l'aimer. Alors, il se révèle à nous pour qu'on l'aime. Et aussi, il espère que vous allez faire ce choix d'unir votre vie à lui. Lorsque nous percevons l'action du Saint-Esprit en nous, cela signifie que Dieu est parti à notre recherche et que lui nous a déjà trouvés. Moi, je me souviens de cette époque-là dans ma vie. C'est où avant, j'étais convaincu qu'il n'y avait rien. Donc moi, mon idée préconçue, c'était Dieu n'existe pas. Mais je percevais qu'il y avait quelque chose, je ne savais pas encore bien qualifier, mais il y avait quelque chose autour de moi qui faisait tout pour m'amener un cheminement, par les circonstances, par mes pensées. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, de constat qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qui est en train d'intervenir dans ma vie, dans mon monde, et que je constate que tout ce qui se met en place est fait pour m'amener dans cette direction, quelque chose qui semble m'attirer. Jean 4, 23 et 24 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est grâce à cet Esprit qu'on peut adorer Dieu. Et par son Esprit, Dieu cherche des adorateurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont l'aimer et qui vont le mettre à la première place de leur vie. L'adoration de Dieu est quelque chose de formidable. Parce que ça veut dire qu'on a rencontré celui qui est digne de notre admiration, de notre reconnaissance. Eh bien, si jamais vous percevez en vous l'action du Saint-Esprit dans votre vie, c'est que Dieu est venu vous chercher là où vous vous trouvez et qu'il est prêt à vous rencontrer tel que vous êtes. Alors, et pas parce que vous l'avez mérité, ça on l'a dit plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'on a tellement du mal à comprendre ou à recevoir ça. C'est pas parce qu'on l'a mérité, mais c'est simplement parce que Dieu nous aime et que par Jésus-Christ, il est en mesure de pardonner tous nos péchés. C'est la seule raison de la venue de Jésus sur terre, c'est de venir pour offrir sa vie, pour pardonner les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. C'est ça, adorer Dieu en vérité, en venant à lui, tel qu'on est. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ça, cette adoration. Quand est-ce qu'on est reconnaissant pleinement de ce que Dieu a fait pour nous? C'est qu'on ait pleinement conscience de notre indignité devant nous. Il y a tellement de gens qui font l'inverse. Ils s'imaginent qu'ils ne sont pas suffisamment dignes pour s'approcher de Dieu. Ils attendent d'être suffisamment dignes pour le faire, sauf que ce jour ne viendra pas. Ou alors, si vous pensez que ce jour est venu, c'est que vous avez une piètre idée de qui est Dieu. Mais lorsqu'on peut s'approcher de Dieu en étant conscient de notre indignité, qu'est-ce que fait notre cœur? Notre cœur est vraiment tourné vers l'adoration. Pensez aux cadeaux. Vous avez tous certainement reçu des cadeaux dans votre vie. Quels sont les cadeaux qui vous ont le plus marqué? Moi, il y a des cadeaux qui m'ont fait très plaisir parce qu'ils correspondaient exactement à mes besoins. Donc j'étais content. Quand je voulais un VTT, si je reçois un VTT, je suis content parce que j'en avais envie. Mais les cadeaux qui m'ont le plus touché, ce sont des cadeaux qui m'ont été faits. Je savais que ça coûtait beaucoup à la personne. C'était vraiment quelque chose de précieux pour elle. Et ça, c'est un cadeau qui m'a touché. Et je suis reconnaissant à ces personnes de m'avoir fait ce cadeau, et ça m'a rempli de reconnaissance. Eh bien, c'est un peu la même chose avec Dieu. Par son esprit, Dieu ouvre nos cœurs, notre conscience. On est conscient de notre indignité devant lui. Mais en même temps, on prend conscience de cet amour qu'il a pour nous. Et là, ça veut dire que nos cœurs sont tournés vers la reconnaissance. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous, cette reconnaissance. C'est l'amour qui nous lie à Dieu. Et on peut se présenter devant Dieu, non pas à cause de ce qu'on a fait pour Dieu, mais grâce à ce qu'il a fait pour nous. Et ça change tout de notre vie.